Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Aujourd'hui, nous parlerons de la réelle conversion et nous parlerons de vaincre la chair. J'espère par la grâce de Dieu pouvoir achever ces deux parties. Et la semaine prochaine, le dimanche prochain encore, nous toucherons une autre partie. Comme je le disais le dimanche passé, la vie chrétienne victorieuse est un enseignement qui vient pour nous donner d'avoir une vie chrétienne de victoire. Et cet enseignement, nous le subdivisons en deux modules. Depuis le dimanche passé, en fait, nous sommes montés dans le premier module. Il y a encore un second module que nous ferons. Il s'agira maintenant des éléments extérieurs. Parce que dans ce qui concerne la vie chrétienne victorieuse, vous avez deux éléments qui vous empêchent et qui vous amènent à avoir une vie chrétienne de victoire. Deux éléments qu'il faut gérer. Le premier élément de gestion, c'est vous-même. Le second élément de gestion, c'est ce qui est extérieur à vous. Ça veut dire ce qui ne vient pas de vous. Il y a des phénomènes qui surviennent dans nos vies, qui sont indépendants de nos volontés, mais qui sont capables de faire réfléchir notre foi, qui sont capables aussi soit de nous fortifier, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les éléments extérieurs. Mais nous pouvons chuter. Il peut nous arriver de ne pas avoir une vie chrétienne de victoire si intérieurement nous avons des faiblesses, nous avons des manquements, s'il y a des choses qui nous empêchent dans la victoire. Nous disons aussi la semaine dernière que lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, jusqu'au chapitre 4, au chapitre 3, les trois premiers chapitres, chapitre 2, chapitre 3, le Seigneur parle aux églises et Dieu leur envoie des courriers, des lettres d'édification. Dans ces lettres, le Seigneur dit, en conclusion des lettres, à celui qui vaincra, je donnerai à celui qui vaincra. Pour dire que la vie chrétienne est un combat. Mais c'est un combat dans lequel nous connaissons, pour lequel nous connaissons l'issue, nous connaissons la finalité. Celui qui va persévérer jusqu'au bout aura la victoire. Celui qui marchera ferme jusqu'au bout aura la victoire. Dieu nous promet la victoire si nous restons fermes. Il y a une seule chose dans la vie chrétienne que vous devez garder. Gardez votre intégrité et une vie de sanctification. Il peut vous arriver de passer par des moments d'épreuve. Il peut vous arriver d'être dans des situations où vous ne comprenez pas. Il peut vous arriver de passer par des circonstances, des chemins qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. C'est un chemin où vous ne savez même pas ce que Dieu veut. Vous êtes embrouillé. Vous ne savez pas s'il faut aller devant, s'il faut aller derrière, s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Mais en ce moment-là, il y a une chose qui va vous garder, c'est votre intégrité et votre marche avec le Seigneur. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire de la vie d'un homme comme Joseph, en parenthèse, je vous demande d'acheter, de payer la cassette sur Ne t'arrête pas chez Potiphar. S'il te plaît, ne t'arrête pas chez Potiphar. C'est une prédication qu'on a faite ici, qui parle de la vie de Joseph jusqu'à son étape de Potiphar. Cet enfant-là, cet homme de Dieu, quand vous lisez sa vie, il a passé par beaucoup de moments difficiles. Et quand vous lisez la Bible, honnêtement, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, combien d'hommes de Dieu vous connaissez qui n'ont pas passé par des temps difficiles? Il y a certains qui ont tellement souffert, on se demande comment est-ce qu'ils ont pu garder la foi. Quand vous lisez la vie d'un homme comme Job, personne parmi nous n'a souffert comme Job. En une journée, on vous annonce que tous vos enfants sont morts. J'ai vu des frères capables de regarder pour un décès seulement. Mais Job, ce n'est pas un décès, c'est tout le monde. Et ça, ça a été permis par Dieu. Pour dire que ces choses peuvent arriver dans la vie chrétienne. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé qui t'amène toi à rétrograder? Ou qui te fait perdre ta vie de communion avec le Seigneur? Un homme comme Job, lorsqu'il a fini de perdre ses enfants et tous ses biens, il est resté ferme. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Comme élément extérieur, vous avez l'ennemi qui l'attaque, qui vient toucher les éléments extérieurs. Mais quelque chose a fait que Job est resté ferme. C'est ce qu'il avait appris de Dieu et c'est la connaissance qu'il avait de Dieu. Dieu estimait en cette époque qu'aucun homme sur la terre n'était semblable à Job sur le plan de l'intégrité et de la communion avec lui. Et pourtant, il fait partie de ceux qui ont été les plus éprouvés. Dieu ne lui reprochait pas des péchés particuliers. Mais il est resté ferme. Après ça, Satan s'est attaqué à sa santé. En plus de perdre tous ses biens et sa famille, il va même jusqu'à perdre la santé. Et dans ses ennemis, se lèveront même sa propre épouse. Qui va dire, oh Job, maudit Dieu, et meurt, parce qu'il est contre toi. Certains parmi nous sont sur le point de retrograder pendant que je parle. Leur vie chrétienne est au plus bas. Leur intimité avec Dieu, leur communion avec Dieu a vraiment pris un coup. Ils ne prient plus comme auparavant. Ils sont en train de baisser. Les sentiments qu'ils avaient abandonnés commencent à revenir en eux. La convoitise, l'amour du monde, les choses qu'ils ne faisaient pas, ils commencent à les refaire. Lorsque nous parlons de la vie chrétienne victorieuse, nous parlons aussi d'avoir une vie chrétienne qui n'est pas une vie en dents de scie. Vous avez des chrétiens, un jour ils sont zélés, un autre jour, il faut pratiquement aller les ramasser, aller les récupérer parce que rien ne va. Si vous suivez ces choses et que vous les mettez en pratique, par la grâce de Dieu, vous serez des chrétiens victorieux. Amen. Alléluia. Parce que le plus important, c'est de rester ferme jusqu'au bout. Un des premiers éléments qui va jouer sur votre, qui joue sur votre être intérieur par rapport aux épreuves auxquelles vous serez confrontés, qui vous permet de rester ferme. Parce qu'en fait, on n'est pas toujours confronté à des épreuves. Nous avons aussi vu des chrétiens qui retrogradent parce qu'ils sont trop bénis. Vous n'avez jamais vu ça? Et on leur donne, l'argent arrive jusqu'à... Lui, il sourit, c'est même plus ce qu'il va faire. Maintenant, il fait le mal. Alléluia. Maintenant, il fait le mal. Il devient méchant, orgueilleux, vaniteux, et tout ça. Il a retrogradé. Il n'est pas resté ferme dans la foi. Amen. Donc, la bénédiction intérieure, les choses extérieures ne sont pas le problème. Le problème, c'est l'intérieur. C'est pourquoi nous commençons par l'intérieur. Dans le module 1. Mais tout commence pour la fermeté dans la vie chrétienne à la façon dont vous commencez votre marche avec le Seigneur. Votre entrée dans le christianisme peut déterminer votre solidité. Il y en a qui sont mal devenus chrétiens. Ils sont devenus chrétiens, mais ils sont mal devenus chrétiens. Ils sont mal rentrés. Et parce qu'ils sont mal rentrés, ils ont des problèmes pour bien continuer. Amen. Nous parlons ainsi de la fondation. Nous lirons des passages tout à l'heure en ce qui concerne cela. Donc aujourd'hui, nous abordons la réelle conversion, considérant que la conversion, c'est la porte d'entrée dans le christianisme. La réelle conversion, pour dire qu'il y a aussi des fausses conversions. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, au verset 26. Matthieu 7, 26. Non, pardon, on va commencer plus haut. Verset 24, pardon. Matthieu 7, 24. Notez 7, 24. Je lis... C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Je me suis rendu compte que la solidité de la vie d'un chrétien est souvent due à la façon dont il s'est donné au Seigneur. Beaucoup de gens se convertissent très très mal, ou mal, avec des pensées qui ne sont pas pures. Ici, il est question de deux personnes qui sont en train de bâtir. Une personne qui bâtit sur le sable et une personne qui va bâtir sur le roc. Ça veut dire personne qui a pris le temps de creuser à fond et de poser la fondation avant de commencer à construire. Les deux donc ont construit des maisons. Le premier, il est assez pressé. Sur le sable, il vient, il creuse quelques centimètres là. Il dépose des briques et il commence à monter une maison. Une belle maison. L'extérieur de la maison, ce n'est pas le problème. Tout le monde a bien envie qu'on le regarde très bien. Donc on voit une belle maison, belle, marbrée à l'intérieur, marbre à l'extérieur. Quand vous voyez les sanitaires, tout est propre, tout est beau, tout est joli, nickel. Voici donc l'exemple d'une vie chrétienne apparemment zélée, consacrée. Lorsque tu le vois, tu vois le grand chrétien, le frère qui jeûne. Vous savez, quand on parle de l'exemple de la maison, en fait, ce que vous voyez dans une maison, c'est ce qu'on appelle l'élément extérieur, correspond à la vie apparente du chrétien. Lorsqu'on parle de la maison. La fondation d'une maison, c'est ce qu'on ne voit pas. Nous sommes dans une maison et personne ne sait jusqu'à combien de profondeur on a enfoncé la fondation de cette maison. Mais pourtant, la solidité de cette maison dépend de la partie que personne ne voit. Il y a quelque chose que personne ne voit, que l'œil ne voit pas, qui va déterminer la solidité de la maison. Mais la beauté de la maison, ce qui va dire, quand les gens arrivent ici, à part que nos toits maintenant sont tombés, quand les gens arrivent, on dit, ah, mais vous êtes dans un bon coin. Ça, ok. Ah, c'est l'extérieur. Mais cette maison est solide en fonction de sa base et de son fondement. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Lorsque nous parlons de réelle conversion, c'est un phénomène qui se passe dans le cœur. Quelque chose que personne ne voit. Quelque chose qui est en toi. Que personne n'a vu et ne peut dire tu es méchant ou tu es gentil. Personne ne sait. Un sentiment intérieur que personne n'a vu. Et ce sentiment-là peut t'amener à avoir une vie extraordinaire. On peut te regarder un grand homme de prière et de jeûne et de consécration. Tout ça, on peut voir. Et subitement, brusquement, suite à l'événement, vous voyez que la sœur qui priait, qui donnait les prophéties à l'église, qui chassait les démons, l'homme loin de Dieu, qui faisait ces choses, subitement, brusquement, on le trouve dans l'adultère, dans l'impudicité, il a abandonné, il a fini par abandonner la main du Seigneur, à vivre n'importe comment. Très souvent, c'est quelque chose qui s'est passé dans leur cœur, quelque chose que personne n'a vu. C'est ce qu'on appelle la réelle conversion, le fondement. Quelque chose dans le cœur, quelque chose que personne ne constate. Sur quoi tu as basé ta vie chrétienne? Où est-ce que tu as creusé pour baser ta vie chrétienne? Où a-t-elle commencé? Par rapport à quoi? Dans la fondation, vous avez, il y a deux choses. Vous avez l'endroit où vous construisez dans le fond. Et vous avez non seulement, en plus en plus de cela, le matériau que vous utilisez pour construire. Amen. Le matériau que vous utilisez pour construire. Vous avez aussi les deux qu'on peut considérer. Parce que la fondation sont des briques qui vont commencer donc à monter, la fondation d'une maison, et puis après on va sortir de l'extérieur, puis on va bâtir, et les autres vont voir que l'extérieur. Où est-ce que tu as commencé, et comment est-ce que tu as commencé ta marche avec le Seigneur? Quels étaient tes sentiments lorsque tu es venu à Jésus? Les premiers éléments de la fausse conversion, je veux dire le premier cas de faux converti, en fait vous avez ceux qui se convertissent par religiosité parentale. Ils sont nés dans une famille chrétienne, leurs parents vont à l'église, eux aussi, ils prennent la coutume d'aller à l'église. Et quelquefois aussi, ils peuvent être très zélés, être actifs dans l'église. Ces gens-là, en fait, c'est une fausse conversion. Ils ne sont pas convertis. De la même façon que vous voyez un jeune musulman qui, par naissance et par habitude, commence à adopter une attitude pieuse. De cette même manière, vous avez ce type de chrétien. C'est-à-dire des gens qui sont nés dans des circonstances apparemment favorables, qui parlent de christianisme, et qui ont accepté la culture chrétienne et qui s'y donne à fond et qui donne l'apparence d'être des chrétiens. J'ai vu ces gens-là très souvent rétrogradés quand le diable leur envoie un type de tentation. La tentation que le diable leur envoie très souvent sont des gens, ils sont nés dans la foi chrétienne, ils n'ont pas connu le monde, ils n'ont pas connu le péché, ils sont droits, tout va bien. À un moment donné, ses frères finissent par remarquer que malgré ça, ils commencent à avoir des mauvais désirs. La chair est en train de prendre le devant de leur vie. Et le diable vient leur dire, tu sais, pour réussir ta vie chrétienne, il faut que tu connaisses un peu le monde. Parce que regarde ton pasteur, s'il est zélé, quand il rend son témoignage, lui au moins il a un témoignage de païen. Toi tu n'as même pas, tu sais même pas de quoi il parle. Tu ne sais pas ce qu'il a laissé pour devenir chrétien. Et le diable te harcèle. Tu dis, c'est vrai, je crois que pour être affermi, il faut aller goûter un crochet. Et bien un crochet qui peut s'avérer fatal. Et on peut te récupérer des années plus tard. Sinon, on peut ne plus te récupérer. La réelle conversion. Donc, vous avez les religieux. Gens qui viennent à l'église parce que leurs parents sont partis à l'église ou parce que très tôt, leurs amis les envoient à l'église. Donc, ce sont des gens qui ont la culture chrétienne. Mais qui ne sont pas chrétiens. C'est une conversion de façade. C'est pour plaire aux gens. Et ils vivent dans un sentiment d'hypocrisie. Parce que ça ne traduit pas la réalité de leur cœur. Ils essayent de sourire. Parce que tous les frères doivent sourire dans la culture chrétienne. Mais dans leur cœur, ils ne sourient pas avec toi. Ils ne t'aiment pas même. Fausse conversion. Elle n'est pas basée sur le roc. Mauvaise fondation. elle ne peut pas tenir dans le temps. Quand la pluie va venir, quand le torrent va se lever, quelle que soit la beauté extérieure de cette maison, quelle que soit la beauté extérieure de cette chrétienté, elle ne tiendra pas ferme. Le chrétien aura beau essayer dans les moments de difficulté de dire, bon, pourquoi je suis en train de faiblir? Il faut que je sois plus élevé dans la tête de l'église. Donc il va, c'est là même, il vient encore plus dans le groupe de prière. Le problème, c'est pas que tu viens au groupe de prière. Le problème, c'est comment tu as commencé. Alléluia. Dans le même registre des fausses conversions, vous avez des gens qui viennent à l'église et qui se tournent vers le Seigneur avec de mauvais mobiles. Nous lirons un passage qui le montre dans le livre de Actes, le chapitre 8. Des gens qui se convertissent avec de mauvais mobiles. Et nous lirons tout à l'heure des exemples qui parlent de ceux-là. Leurs pensées ne sont pas pures. J'ai vu des gens qui sont venus à Christ. Bon, tout simplement, tout à l'heure, il y a la sœur Tandifilo qui est venue, qui a rendu son témoignage. Hein? C'était plus un témoignage, c'est la main de Dieu. Elle a couché une balle de Kalachnikov qui vient traverser le toit et qui vient tomber là où elle est. Et un petit geste s'est fait que ça évite ça. Et la balle est venue avec violence. Du moment que ça a transporté le toit, ça a explosé le toit et puis ça fait du grand bruit. Donc, aujourd'hui, on serait en train de pleurer Tanti Philo. Ou bien, parce que ce n'est pas venu son bras, c'est venu même sur la tête. Mais Dieu, dans sa grâce divine, l'a délivré. Bon, quelqu'un peut écouter ce témoignage et dit, Dieu est le Dieu qui protège. Ce qui est vrai. Et se donner au Seigneur pour être protégé. Donc, il est venu à Christ pour sa protection. C'est comme un individu qui va voir un marabout pour que le marabout lui donne une bague anti-accident, anti-mort. Je n'ai jamais vu ça. Ce qui est sûr, c'est un chef de bague anti-mort. Mais tôt ou tard, tu mourras. Voilà. Donc, ils vont jusqu'à prendre des choses. Donc, certains viennent à Dieu, pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils ne sont pas convertis. C'est pas parce qu'ils aiment Dieu, mais c'est parce qu'ils aiment eux-mêmes. Donc, Dieu, en fait, pour eux, est quelqu'un qui vient les aider. Ça veut dire, ils ne viennent pas à Christ pour servir Christ, mais ils viennent pour que Christ les sert. C'est une fausse conversion. Est-ce que cet individu peut aller loin avec le Seigneur? Parce que Christ est son Christ doit le protéger. Christ doit lui donner un mariage. Christ doit lui donner de l'argent. Christ doit faire réussir ses affaires. Alors, comme tous les chrétiens, lorsqu'il arrive à la période de l'épreuve, où Dieu ne te protège plus à 100%, parce que ça arrive à tout chrétien, ce qui arrive à Jean peut arriver. Ce chrétien a fini toujours par rétrograder. Ou bien la soeur qui est venue à l'église pour se marier, parce qu'il y a des soeurs qui viennent, non, je suis arrivé ici, le pasteur a prié pour moi, depuis longtemps, dit j'étais maudit, je ne peux pas me marier, et aujourd'hui, voilà mon mari, on est mariés, oui, la soeur assise là, elle dit, hein, ce pasteur il a l'onction de mariage. Oui, frère, j'étais là. Au moins, dix témoignages de mariage comme ça. Je n'avais pas d'enfant. Je suis venu voir le pasteur. Et il a prié pour moi. Et gloire soit rendue à Dieu. Oh, dit, j'ai un bébé. Oui. Et Jésus lui donne enfant. Le pasteur, il a l'onction. Et ces gens-là arrivent à l'église. Maintenant, le pasteur dit, si vous voulez que Dieu vous bénisse, il faut avoir une vie de jeûne. Il va jeûner. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, rentrez dans les départements. Il va entrer dans les départements. Mais quand il rentre dans les départements, ce n'est pas pour servir Dieu. C'est comme quelqu'un qui va considérer marabout. Le marabout lui dit, si tu veux, paye un coq-tant, fais ceci, fais cela. On lui donne des critères. Il obéit à ces critères parce que derrière les sacrifices qu'il fait, on peut même lui demander, va t'arrêter à 00h30 au carrefour. Déshabille-toi. Les gens le feront. Mais est-ce que vous pensez qu'il le fait parce qu'il aime la tête du marabout? Non! C'est ce que le marabout peut faire pour lui qui veut faire. Donc comment quelqu'un peut dire qu'il s'est converti si lui, il vient à Dieu? Pas parce qu'il aime Dieu, mais parce qu'il veut ce qui est en la main de Dieu. Celui qui marche derrière un marabout, vous pensez que c'est parce qu'il est fan du marabout? Non. Mais le marabout même sait que le monsieur ne l'aime pas forcément. Le marabout sait que si ce monsieur vient le voir, c'est parce qu'il est capable de faire pour ce qu'il est capable de faire pour lui. Et beaucoup de gens ont des fausses conversions parce qu'ils sont venus à l'église pour ça. Ces individus ne peuvent pas aller loin avec le Seigneur. Mon frère, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais toi-même, juge toi. Ce qui va faire que tu vas laisser la main du Seigneur, c'est pour la raison pour laquelle tu es converti. Parce que depuis quand vous êtes. Quand tu lis la Bible, quand tu lis la Bible, c'est vrai que Dieu est béni, mais tu n'as pas vu qu'il y a des preuves dedans? Quand tu lis, Mais si tu n'as pas vu ça. Quand tu éprouves là, ce n'est pas doux. Moi, c'est une des choses qui a fait que je me suis converti. D'imaginer, je dis, mais comment quelqu'un qui s'appelle Jésus peut demander aux gens de venir à lui et ils vont s'ouvrir. Je dis, généralement, quand quelqu'un veut t'attirer, quand je vois les marabouts qui veulent attirer, il dit, venez, stop à la souffrance. Problème de voyage réglé. Tout le monde te présente, ce qui est beau. Mais lui, il dit, venez à moi. Venez, je vais vous sauver, mais vous serez persécutés. Alléluia. Ça, c'est puissant. Et aujourd'hui, nos églises sont remplies d'individus qui prennent Dieu, qui prennent les pasteurs comme des charlatans et des marabouts. Et beaucoup de pasteurs jouent ce jeu. Préfèrent avoir des chrétiens superficiels. Faut démontrer, quand tu vois les affiches, l'homme qui prie et tout arrive. L'homme de Dieu. Quand tu le vois, son visage ressemble à la résolution de tes problèmes. Et ces hommes vivent de la crédulité des hommes qui viennent à eux parce qu'ils vont prier, tout sera débloqué. Je dis, mais est-ce qu'un homme est capable de faire au-delà de ce que la Bible décrit? Est-ce qu'un homme, je ne sais pas quelle soit la prière, si Dieu décide que toi tu vas souffrir comme ça, aucune prière, aucun pasteur ayant gêné, prié, veillé, ne peut éviter le chemin par lequel Dieu veut que tu passes pour lui te former. Et puis d'ailleurs même, ce que Dieu veut, c'est pour ton bien. On ne veut pas accuser moi pour souffrir. Dieu bénit, frère, Dieu bénit. Mais si tu le prends comme un marabout, tu vas avoir des problèmes. Et c'est dommage que les hommes de Dieu vivent ainsi. Parce que quand les gens, plus de gens viennent, plus les gens te donnent de l'argent. Plus toi tu t'enrichis. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils prêchent pour leur propre ventre. Ils sont des fils du diable. Parce qu'ils n'enseignent pas ce que le Seigneur a dit. Ce n'est pas ce que Jésus enseigne à ses disciples. Cela ne veut-il dire qu'il ne faut pas faire des miracles, qu'il ne faut pas faire des guérisons pour attirer les hommes à Christ? Si. Mais le miracle doit, ou bien les miracles, les témoignages doivent produire quelque chose. En fait, on doit se dire, ah, ce Dieu qui a délivré notre sœur Philomène, ce Dieu qui guérit, moi maintenant je veux, je vois que c'est un Dieu puissant, je vois qu'il est le vrai Dieu, alors je décide de me tourner vers lui, de l'adorer, de le servir. Ça c'est un autre raisonnement. L'autre dit, ce Dieu qui fait ça, il est capable de faire ça aussi pour moi, donc il va me garder. Et de le prendre comme un marabout. Alléluia. Dans la Bible, vous avez des fausses conversions. Actes chapitre 8, verset 13 au verset 24. Je commence même au verset 9. Il a dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, lisez, Simon donc a été baptisé. Il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonné s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Voilà un individu qui s'appelle Simon, Simon le magicien. Simon le magicien était un grand magicien, il faisait de la magie et dans la Samarie là où il était, il épatait tout le monde et tout le monde l'écoutait à cause de ces miracles qu'il produisait par la magie. Subitement arrive dans la même ville un enfant de Dieu, le diacre Philippe. rempli de la puissance de Dieu, évangéliste Philippe. Il vient, il prêche avec puissance et par des miracles extraordinaires. La foule croit donc en son message et les gens croient et les gens sont baptisés selon ce qui est écrit. Et parmi eux se trouve Simon. Il est dit très clairement que Simon crut lui aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Oh, apparemment, voilà un bon frère. Ça veut dire qu'il a cru. Ceux qui sont mal convertis, en fait, ils croient en Dieu. C'est pas... Ils croient que Dieu existe. Ils croient qu'il est puissant. Simon a cru. Mais la pensée qu'ils ont envers Dieu, ce n'est pas la même pensée que les chrétiens. Simon a cru. Mais la façon de marcher avec Philippe, en fait, comme lui, il aime épater les gens par la magie. Il veut prendre la puissance qui est sur Philippe pour aller dans une autre ville maintenant pour encore épater et escroquer les gens. Donc il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit, il faut croire. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être baptisé. On le baptise. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il était prêt à tout. La Bible dit qu'il ne laissait plus Philippe. Où tu l'as vu? Où tu vois Philippe? Tu vois Simon. Mais c'est ce qui est écrit. On dit, il ne le laissait plus. C'est pas ça? C'est ça, Simon-Pierre crut. Hein? Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Il ne quittait plus. C'était le disciple. Hé, mon père, père spirituel, prie pour moi. Communique-moi la puissance. Il était là. Et voilà Simon. Et il a été attrapé par Pierre, parce que Simon, Philippe n'a pas discerné. C'est Pierre, l'apôtre Pierre qui l'a attrapé. Quand Pierre est arrivé, il a vu encore une autre démonstration de puissance. Le parler en la langue. Oh, tu pries quelqu'un? Et puis subitement, il change de langage. Il ne parlait pas arabe, un coup il parle arabe. Non, le gars dit non, ça là. Paralytique marché, j'ai vu. Mais quelqu'un qui n'a pas appris une langue. Tu pries pour lui, un coup il parle la langue. Non. Comme il savait que les pierres devaient repartir, il n'a pas le temps de laisser couler à eux, parce qu'il n'a pas fini l'école de Philippe. Là, il sort là, il dit les gars. Mais les gars, non, mais ça là, vous êtes puissants, hein. Bon, on fait ça comment? Je vous donne de l'argent. Hein? Tu peux me donner le don à combien? En combien? Donc, quand Pierre a écouté ça, il dit, mais c'est pas possible. Pierre l'a maudit en même temps. Il dit, mais que ton argent périsse avec toi. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils vont payer le pasteur pour que le pasteur prie pour eux pour avoir leur mariage. Pour avoir ce qu'ils recherchent, ceux pour qu'ils sont venus à l'église. Ils ne sont pas venus parce qu'ils aiment Dieu, mais ils sont venus à cause de ce que Dieu va faire pour eux. Sinon, Dieu lui-même, là, il n'aime pas. Ce n'est pas qu'ils sont attirés par lui. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la différence, non? Vous comprenez? C'est ça la fausse conversion. Et ça, là, personne ne voit parce que c'est dans ton cœur. Si vous voyez un homme comme Philippe, vous allez penser que c'est un frère qui est zélé. Parce que tous les autres, si vous voyez Simon, pardon, vous allez voir que Simon est zélé. Parce que tout le monde. Les autres même qui sont convertis là, eux-mêmes ils ne sont pas trop derrière Philippe. Mais lui, Simon, il ne le quittait pas. On n'a pas dit que toute la ville ne le quittait plus. C'est Simon qui ne le quittait plus. On va dire non, ça cet homme-là, il va remplacer Philippe bientôt. C'est son disciple. Philippe était fier du disciple. Parce que Philippe n'a pas discerné, sinon il l'aurait chassé depuis longtemps. Amen. Alléluia. Voilà donc ce que c'est qu'une fausse conversion. Et la plupart des fausses conversions sont basées là-dessus. Ma soeur, mon frère, quand tu viens à Jésus, qu'est-ce que tu recherches? Parce que tu vas retrograder, parce que Dieu va pas te donner ça. Parce que tu es venu pour te marier là, c'est là même ton mariage va durer. Dieu va te regarder jusqu'à ce que tu te donnes à lui. Dieu est serein. Personne ne l'effraie. Et puis tu ne peux pas l'effraier. Si Dieu faut pleurer, il faut crier. Lui, il dit, il te donne pas, il te donne pas. Attends, qui peut obliger Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Si tu m'en fous de tuer, ça ne fait rien à Dieu. De toute façon, tu retournes à lui au ciel, il te trouve. Si tu n'es pas dans la droite, il t'amène en enfer. Puis la fin est terminée. On dit, mais pourquoi je suis perdu? Frère, Dieu est Dieu. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. On ne veut pas se voir pour dire Dieu, nous allons juger tes actes, que ce n'est pas bon. Il est Dieu. Voilà. Et puis, il a toujours raison. Pas parce que c'est forcé, mais parce qu'il a raison. Et puis, ce qu'il dit, c'est vrai. Amen. S'il patiente, tu sais pourquoi il patiente. Toi, garde le silence et puis bénis-le. Parce que ce que tu ne vois pas, lui, il voit. Ce que tu ne sais pas, lui, il sait. Toi, tu ne juges que par rapport à ce que tu vois, ce que tu connais. Mais lui, il va au-delà de ce que tu vois et tu m'imagines. Il a toujours raison. Garde le silence, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que chacun se pose la question. Moi, je ne peux pas voir ça. Peut-être que tu es zélé. Mais peut-être que ton zèle est un faux zèle. Peut-être que tu participes à toutes les réunions qu'on te demande de faire. Mais peut-être que tu as une fausse conversion. Je ne sais pas. C'est une fondation que personne ne voit. Et toi seul aujourd'hui es témoin des sentiments de ton cœur. Alors mets-toi devant la face de Dieu et dis: Seigneur, pourquoi je suis venu vers toi? On peut aller plus loin. On peut aller plus loin parce que justement je disais que si Dieu te prive de ce que tu demandes, c'est ainsi que vous voyez les gens rétrogradés. Des filles qui retournent dans l'adultère, qui retournent dans l'impudicité, qui retournent dans les choses qu'elles ont vomies. Parce qu'elles sont venues à Christ pour ça. Amen. Et certains sont même capables de persévérer pendant de longues années pour attendre. Parce que le pasteur dit, il faut patienter. Et la Bible dit de patienter. Il faut patienter. Mais à un moment donné, plus ça tarde, plus leur vie de chrétien commence à baisser. Plus ça tarde, plus ils prient moins. Plus ça tarde, plus leur communion avec Dieu commence à prendre du coup. Ça veut dire que eux, leur zèle, ce n'est pas basé sur l'amour de Dieu, mais c'est basé sur la recherche de quelque chose. Leur vie de prière, parce que là maintenant je m'adresse à ceux qui, il y en a qui ne le regardent pas. Mais leur amour même pour Dieu prend un coup. Ils restent toujours à l'église, mais ils ne prient plus comme avant. Ils restent toujours à l'église, mais ils ne jeûnent plus comme avant. Ils restent toujours à l'église, mais ce qu'ils faisaient, ils ne faisaient plus. Parce que beaucoup de leur zèle était basé sur un intérêt. Amen. Alléluia. Vous avez certains qui ont, vous voyez, qui ont un début de vraie conversion. C'est de cela que je parle. Qui savent quand même qu'il est Seigneur et qu'ils veulent l'adorer. Mais franchement, tout leur zèle et toute leur consécration est une consécration intéressée. Pas leur conversion directement. C'est-à-dire, ils ont reconnu que Jésus est Seigneur et ils l'ont accepté comme le Seigneur. Mais ce qu'ils vont faire pour Dieu dans l'église, quand ils sortent pour aller évangéliser, c'est intéressé. Là, ce n'est pas directement la conversion, mais c'est directement ce que nous faisons pour Dieu. Lorsqu'ils posent des actes, c'est très intéressé. Si à un moment donné, après avoir jeûné et prié, ils ne voient pas les choses changer, ils arrêtent de jeûner et de prier. Et leur vie chrétienne devient une vie en dents de scie. À un moment donné, après une puissante prédication qui vient les encourager à persévérer, ils se relèvent. Mais ton zèle ne tiendra pas longtemps. Parce que ton zèle est basé sur du faux. Ce n'est pas basé sur un amour de Dieu, mais c'est basé sur une recherche d'intérêt. Quand je donnais ma vie au Seigneur, j'ai eu aussi ce même phénomène. Ce n'était pas pour une recherche d'intérêt. C'était, vous savez, je n'étais pas délivré de ce sentiment de jalousie. Et dans mon cœur, j'avais comme un très fort esprit de concurrence. Si quelqu'un fait quelque chose, je vais faire mieux que lui. C'était pas à l'école, mais dans la vie spirituelle, je sais pas d'où c'est venu, mais c'était comme ça. Et quand je lisais les livres et que j'apprenais que quelqu'un priait 2 heures de temps, moi je devais faire plus. Donc, j'ai commencé à jeûner et à prier longtemps, à avoir une vie de consécration, mais mon mobile de ma vie de consécration était une tendance de concurrence avec les autres. Je passais beaucoup de temps dans le jeûne. Dans la journée comme ça, parce qu'il fallait qu'elle batte tous les records. Je pouvais prier pendant plus de 10 heures de temps. Une semaine d'affilée, non-stop. Matin, je viens à l'église, je prie jusqu'à la nuit. Je vois encore, quand je me couche, je prie. Jusqu'à ce que je dorme. Quand je me réveille, je prie. Je prie. Je jeûne. Après, quand j'ai vu que j'ai battu presque tous les records de livres de prière que j'ai vus, et que je n'étais pas devenu un homme de Dieu si puissant que je le souhaitais. Bible qu'il y avait l'onction, Dieu guérissait des malades. Mais ce que je cherchais, ce n'était pas ça. J'ai regardé et ma vie de prière a pris un coup. Moi, je n'ai plus la force de gêner. Je n'ai plus la force de me consacrer autant. Parce que ce sur quoi j'ai bâti ma vie de prière, ma vie de consécration, c'était du faux. Ce n'était pas un amour réel de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je ne priais plus comme avant. Je suis resté chrétien parce que j'aimais vraiment le Seigneur. Mais ma vie de prière, ma vie de zèle, était basée sur quelque chose qui n'était pas un amour de Dieu. Et après, quand on m'a fait comprendre ça, il m'a fallu prendre le temps pour tout rebâtir. Une vie de prière basée sur un amour réel de Dieu, sincère de Dieu. Une vie de jeûne parce que vraiment, j'ai envie de prendre le temps dans sa présence. Vous voyez, je jeûne pour ça. Je jeûne parce que vraiment, en m'approchant de lui, j'ai besoin qu'il me parle. Et je vais être utilisé davantage pour faire avancer son royaume. Pour sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça reprend. Si une maison s'écroule quand il y a le vent et la tempête, c'est-à-dire après les épreuves, c'est que la maison n'était pas bien bâtie. Si le vent souffle et que la vitre se casse, comme pour nous, l'eau se met à couler, ce n'est pas un problème de la fondation, c'est un problème avec le toit. Mais si le mur tombe, tout s'écroule. On a le frère Ngourin qui est dans le bâtiment. Il va venir nous dire, mais c'est que la maison était mal bâtie. N'est-ce pas Ngourin? C'est qu'il y avait une fausse fondation. Tout ce que tu as fait ne peut tomber. Tout ce que tu as entrepris ne peut tomber que si ta base est fausse. Par contre, tu peux avoir des dommages sur tes façades, tu peux avoir des dommages sur ce qui est extérieur. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas souhaitable. Mais tu ne peux pas être profondément ébranlé. L'ébranlement total est consécutif à une fausse fondation. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu dois faire si tu as mal commencé? On fait quoi? Quand on a mal commencé, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons demander à un expert du bâtiment, le frère Ngourin. Si on a commencé à construire un mur, on a construit une maison, comme là, et puis la fondation est fausse, qu'est-ce qu'on a fait? On ne peut pas creuser à côté puis mettre des briques pour remplacer. Il faut tout raser, refaire les fondations. S'assurer qu'on est sur un bon sol. Voilà ce qu'il dit. C'est son travail, il connaît. Et ceux qui sont dans les bâtiments aussi savent que c'est vrai. Si vous avez commencé à construire un faux mur, c'est de l'argent perdu. Si ce n'est pas vous-même qui détruisez, quelque chose va détruire ça. Alléluia. Ce n'est pas d'aller retrograder. Vas-y. Allez, le recommencer, les gens qui vont comprendre ça. Allez, ah, ben je me suis mal converti. Donc, je vais retourner dans le monde. Et puis, revenir avec de meilleurs sentiments. Hein? Donc, comme je ne suis pas encore bien, j'allais encore un bon pain. Non. Recommencer à zéro serait maintenant là de te donner vraiment au Seigneur. De ne pas repartir dans le monde, mais de te donner, Seigneur, je ne savais pas ces choses. Maintenant, je me tourne vers toi. Maintenant, je me donne réellement à toi. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez Jean le chapitre 8, le verset 30, vous avez encore un autre exemple de fausse conversion. Vous allez voir que la fausse conversion est très 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 dangereuse. Si vous, à un moment donné, vous finissez par lapider Jésus. En Jean le chapitre 8, le verset 30, il a parlé de cette histoire. Il a dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Ce que je peux vous dire, dans qu'est-ce que je dois faire, ces disciples, ces juifs qui étaient là ont cru en Jésus. Ils ont cru en Jésus. C'est la première des choses. Si tu crois qu'il est Seigneur, ça au moins, c'est déjà bon. C'est pourquoi je dis, tu n'as pas besoin de retourner totalement dans le monde. Si tu sais qu'il est mort à la croix pour tes péchés, c'est déjà bon. C'est au moins la base sur laquelle tu vas construire. Mais ce que tu as mis sur ta croyance là, c'est ça qui n'est pas bon. Tu dois croire, c'est vrai qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur. Maintenant, toi, ton engagement par rapport à croire qu'il est Seigneur, il est Sauveur, c'est ce que tu vas revoir. Par contre, quelqu'un qui vient à l'église mais qui ne croit pas que Jésus est Seigneur, lui, mais il n'est pas converti. Donc, toute la vie spirituelle qu'il bâtit, c'est-à-dire lui doit totalement même se reconvertir parce qu'il est païen. Maintenant, tu crois que Jésus est Seigneur. Tel est le cas de ces Juifs ici. La Bible dit que comme Jésus parlait ainsi, ils ont cru en lui. Et Jésus va leur dire, bon, si vous croyez en moi, c'est déjà bon. Demeurez dans ma parole et vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libre? Et nous sautons, parce que c'est assez long, pour aller vers la fin, verset 57. Les Juifs lui disent, ça veut dire ces mêmes Juifs dont on parlait tout de suite, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Verset 59. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Voilà des gens qui ont cru en Jésus. Mais à force de détruire Jésus, ils ont pris des cailloux et puis ils l'ont lapidé. Ceux qui bâtissent mal, les faux convertis, parce que là aussi ils ont cru, sont des gens qui finissent toujours par lapider Jésus. Parce que Jésus ne va pas faire ce qui leur plaît. Donc ils finissent par se rébeller contre lui. Ce n'est pas aller chez Dieu, on ne va pas juger pour lancer avec un caillou. Mais ils insultent Dieu dans leur caractère, dans leur comportement. Ils portent l'homme chrétien et puis ils vont faire des bêtises avec ça. Ils portent l'homme chrétien parce qu'ils ont vu que Dieu n'est pas capable de désosser leurs désirs. Et puis ils deviennent des escrocs pour avoir de l'argent. Parce qu'ils étaient venus à Christ pour avoir de l'argent. Mais Christ n'a pas directement donné l'argent. Donc ils deviennent des escrocs gardant le nom de chrétien. Ça c'est lapider Jésus. Voyant que Christ ne leur a pas vu donner un mari, ils vont dans le monde commettre l'adultère, l'impudicité pour trouver le conjoint.
et essayer de le ramener, soi-disant, à la vie chrétienne. Ça, c'est lapider Jésus. Parce que tu blasphèmes le Seigneur qui est en toi. Parce que Christ est en toi, tu es le temps du Saint-Esprit, c'est prendre un caillou et puis tu lui lances ça. Vous dites, ah, dans l'église, depuis là, je prie, Dieu ne fait rien. Oh, le païen a été plein. Et puis, toi aussi, tu lui plais. Il dit, est-ce que je peux le convertir? Et tu te lances à l'assaut. Je dis, tu as une fausse conversion. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur te parle, il faut te repentir. Il ne faut pas t'endurcir. Change de vie. Ce que je dis, c'est pour qu'un jour, on puisse se retrouver au paradis, puis on va sourire. Le monde n'en est que vanité. Ça va finir. Mariage, là, ça finit. Mais si tu es marié, tu as fait combien de temps? Si tu as trop duré 50 ans de mariage, après tu meurs comme tout le monde. Les célibataires comme les mariés meurent. Les célibataires comme les mariés se retrouvent devant Dieu. Personne ne va aller à l'enfer parce qu'il est resté célibataire. Mais parce qu'il n'a pas cru. Qu'est-ce qui est plus important? C'est ce qui est pour l'éternité, mais c'est ce qui est pour le présent. Ça, là, ça va finir. Avant toi, il y a eu des gens. Après toi, il y en aura. Ah. À cause du bien, tu peux la retrograder, à mettre en jeu ta vie chrétienne. À brader la chrétienté, à lapider Jésus. C'est ça, lapider Jésus. Tu as cru en lui, mais tu vas lui lancer des cailloux. Tu as cru en lui, mais tu vas le renier. Parce que ta vie le renie. Parce que comment, pendant que tu es en train de vivre dans l'adultère, tu peux dire à ton copain, Jésus est Seigneur, tu sais. Quand les gars te regardent, mais toi, tu dis quoi? Tu as lapidé Jésus. Et puis dimanche, quand tu... c'est une insulte à Dieu. Dimanche, tu vois, tu prends la Bible. Après, ton péché. Tu attrapes la Bible, tu dis, chérie, je m'en vais à l'église. Oh, il sait que lui, il est marié, puis toi, tu sors avec lui. Et tu sais que c'est l'adultère. Et tu es là, et puis tu es content de parler. On t'appelle devant. C'est mon pasteur, tu sais. Mon pasteur, il m'appelle. Ah, c'est ton pasteur. Oui, il faut que tu partes le voir. Vous allez prier ensemble, tout ça. Là. Mais tu es en train d'insulter Dieu. Parce que quand on te regarde comme ça, on ne peut pas se convertir. C'est ça la lapider Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Où est-ce que tu as bâti ta vie chrétienne? Si cette parole est pour toi, alors décide de changer de vie. Recommence. Ton zèle que tu fais à l'église, c'est pas ce qui va t'aider à changer. Laisse ça. Si tu veux, tu peux continuer à prier avec les frères, c'est bon. Mais remets-toi intérieurement devant la face de Dieu et rétablis ta chrétienté. Et puis après ça, tout ce que tu vas faire sera valable. Amen. Tu peux continuer à prier, tu peux continuer à veiller avec les frères, tu peux continuer à jeûner, c'est très bon. Mais sans une bonne fondation, tout ce que tu feras à l'extérieur, ce n'est que du vent. Quand les problèmes vont venir, ça va être balayé comme rien. Amen. Mais quand il n'y a pas de problème, ça tient. On a l'impression que c'est du solide. Ok, ça c'est bon pour la réelle conversion. Ça peut aller? Ça peut aller? Maintenant que tu as fini de te convertir, tu es vraiment sérieux, tu es vraiment sincère, tu aimes le Seigneur, tu l'as accepté comme ton sauveur et tu l'as accepté comme ton Seigneur. Jésus conduit ta vie, Jésus dirige tes pas. Jésus est le maître, le Seigneur de ta vie. Ça c'est établi dans ton cœur. Il y a un autre élément qui va te créer des problèmes à l'intérieur de toi-même qu'on appelle la chair. Alléluia. Il est question d'elle dans le livre de Romains, le chapitre 7. Romains chapitre 7, je lis à partir du verset 7. Que dirons-nous donc? Romains 7, 7. Nous allons lire, une lecture un peu longue. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort. Par ce qui est bon et par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle,
Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je reprends le verset 14. Il dit, en d'autres termes, je sais que la loi de Dieu, la parole de Dieu là, elle est bien. Elle est spirituelle, je reconnais. Mais, moi, je suis quelqu'un de charnel. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je suis charnel. Vendu au péché. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Mais je fais des choses sans m'en rendre compte. Et je ne fais pas ce que je veux. C'est-à-dire, ce que je souhaite faire, je n'arrive pas à le faire. Je ne le fais pas. Et je fais, ça veut dire, je me trouve en train de commettre ce que moi-même intérieurement, je hais. Il dit, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Le bien que je veux faire, pour commenter, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je n'ai pas envie de faire, je me retrouve en train de le commettre. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, bon, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Est-ce que vous avez compris la lettre de l'apôtre Paul ici? En fait, Paul dit, il a connu la loi et il sait que la loi est spirituelle, la parole de Dieu ne prend pas, il sait tout ça. Mais il dit, il constate que dans son être intérieur, quand il regarde, parce qu'il a donné sa vie à Jésus, parce qu'il aime le Seigneur, il constate que intérieurement, franchement, il a vraiment envie de faire la volonté de Dieu. Il a vraiment envie d'avoir une bonne vie de sanctification. Il aspire vraiment à être pieux. Il aspire vraiment à être quelqu'un de prière. Il aspire vraiment à être dans la victoire. Il aspire. Mais il découvre dans sa chair, en lui-même, des membres qui l'amènent à faire ce qu'il ne veut pas. Il a envie de prier, il dort. Il a envie de jeûner, mais sa chair l'amène à manger. Il a envie de faire le bien, mais il se retrouve en train de poser des actes qui sont méchants. Et après lui-même, il regrette profondément. Parce que dans son être intérieur, il a envie de faire la volonté de Dieu. Mais dans sa chair, il trouve une loi qui l'amène à faire ce qu'il ne veut pas. Alléluia. Qui a un problème comme ça avec la chair? Si tu as un problème avec la chair, lève la main. Si tout le monde a vaincu la chair, je passe à l'autre sujet. Non, levez bien, je vais voir. Voilà. Donc, comment vaincre? C'est-à-dire que comment on peut régler ça? Donc, tu es vraiment converti, non? Tu es vraiment converti? Tu as vraiment donné ta vie à Jésus? Alléluia. Donc, là-bas, c'est bien, hein? Voilà. Maintenant, vous voyez, ça, ce n'est plus le même problème. Le premier problème, quand c'est la fausse conversion, ça détruit tout ce que vous avez de bien. Le second problème, en fait, c'est que tu aimes vraiment le Seigneur, en fait. Mais tu découvres quelque chose qui fait que tu ne fais pas la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la loi de la chair. Comment vaincre la chair? C'est-à-dire comment tu vas arriver à faire ce que tu as envie de faire pour Dieu. Amen. Sans que la chair ne te mette en retard. Voilà. Pour quel est le problème de la chair? Quel est le problème de la chair? Parce que la chair, c'est toi. En fait, selon le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, la Bible dit que, en fait, le corps humain est séparé en trois. Le corps humain, nous avons le corps qui est la chair, la chair là, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. L'homme est lui-même une trinité, comme Dieu. Je suis seul, il y a un seul et un seul, Sanogo Mohamed Yérénien, comme moi. Mais en moi, il y a trois personnes. Il y a la chair, il y a mon âme et il y a mon esprit. Mais il n'y en a pas deux, comme moi. C'est comme ça que Dieu est. Amen. Ça c'est Dieu. La Bible dit que Dieu nous a créé à son image. Voilà. Mais je n'ai pas deux comme moi. Mais ma chair est différente de mon âme. Mon âme est différente de mon esprit. Mais tous les trois vont ensemble. C'est pourquoi un homme est capable de manifester trois sentiments différents. C'est-à-dire, en même temps, tu as envie d'aller quelque part. Et puis, il y a une autre partie de ton corps, celui qui n'a pas envie de partir. Et puis, il y a une partie qui a envie de rester. Bon. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous sentez qu'on peut avoir des sentiments différents pour le même sujet. Et quelquefois, les gens ne comprennent pas. On dit, mais toi aussi, hier tu m'as dit tu veux. Après, tu me dis tu veux pas. Je te comprends plus. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie. Toi-même qui parles, tu es comme ça. Toi-même, tu parles, tu es comme ça. Un homme peut avoir deux volontés, jusqu'à trois volontés différentes en même temps. En même temps, il veut, en même temps, il ne veut pas. Tu arrives dans un magasin, tu choisis un objet. Il y a une partie qui dit prends. Il y a une partie qui ne veut pas. Parce qu'il considère les réalités de la vie, tes problèmes financiers. Mais il y a une partie qui va, mais tu as l'argent quand même, débrouille-toi, après tu vas chercher ailleurs. Il y a une partie qui dit, mais quand même, garde l'argent pour investir en de bonnes choses. C'est bien, c'est pas que le Saint-Esprit est en train de te parler. C'est que, généralement, celui qui est très raisonnable en vous, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui a la raison. La chair vit par convoitise et par envie. Donc, elle a envie de payer cette robe-là. La chair veut s'habiller comme ça pour sortir. L'esprit dit à la chair, chair, on n'a pas assez d'argent en ce moment. Est-ce que tu comprends cette histoire? La chair dit, mais la robe-là me plaît trop. Et l'esprit te lui parle. Je t'explique que si tu payes ça, tu vas avoir des problèmes. Et l'âme, lui, généralement, il est hésitant. Mais entre les deux, bon, trouver quelque chose, on va faire. Et puis, si ta chair est trop forte, tu dis, bon les gars, prenons, à chaque jour suffit sa peine, on va se débrouiller. Et tu prends la robe. Tu as satisfait ta chair, tu n'as pas écouté la raison de l'esprit. Et tu vas aller, maintenant après c'est la galère, les difficultés, les problèmes. Si Dieu t'a fait grâce, peut-être que l'argent va venir encore après. Bon, or, généralement, quand vous êtes laissé conduire par la convoitise de la chair, Dieu ne vous exauce pas vite. Amen. Alléluia. Vous voyez, non? Donc, c'est ça les trois, là. C'est ça les trois. Donc, la chair, l'âme et l'esprit. Maintenant, le problème qu'on a, en fait, c'est le problème de la chair. C'est lui qui nous fatigue. C'est la chair qui fatigue les gens. Et la chair aime ce que Dieu n'aime pas. La chair convoite. La chair a des envies qui sont contraires à ce que la parole de Dieu t'a expliqué. La Bible dit de ne pas aimer ça, mais ta chair aime. La Bible, et tu sais que on ne doit pas faire ça. Toi-même, tu sais. Mais ta chair te dit de faire. Et si ta chair, plus ta chair est forte, plus tu te soumets à ses désirs. C'est ce que Paul exprime ici. Comment il va faire pour s'en sortir? Alléluia. En fait, le problème de la chair commence dans le livre de Genèse. J'ai très souvent prêché là-dessus. Tous les anciens connaissent ce passage. Mais rappelons-le pour les nouveaux. Lisons le livre de Genèse, chapitre 3. Comme on a assez lu, lisons à partir du verset 14. Il est dit: l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait tout cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Voilà, je m'arrête là. Vous connaissez tout ce passage. Dieu a créé Adam et Ève. Il les a mis dans un jardin cultivé, joli, très beau. Et au milieu du jardin, il a mis deux arbres particuliers. Un arbre qu'on appelle l'arbre de vie et un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire, cet arbre-là, le fruit, si tu manges de ce fruit, tu connais le bien et le mal. Ce n'est pas, comme veut nous le faire croire des personnes, c'est un fruit d'adultère ou d'impudicité. C'est pas vrai. Si quelqu'un t'a dit que le fruit, là, c'est Ève qui est partie coucher le serpent, dis, mon ami, ce n'est pas vrai. Parce que c'est une doctrine qui prend de l'ampleur. Les gens commencent à croire à une chose qui est du n'importe quoi. En disant que Caïn serait l'enfant du serpent. Ce n'est pas vrai. C'est une doctrine des branhamistes. Et puis même qui date même d'avant, ce n'est pas vrai. Voilà, Ce n'est même pas vrai. Et en tout cas, c'était un fruit. Je ne sais pas comment le fruit est. Il y en a qui disent que ça ressemble à une pomme. On n'a jamais dit pomme. On dit un fruit qui nous permet de connaître le bien et le mal. Quelle est la forme? C'est que c'est un fruit. Quand vous lisez le même Genèse chapitre 3 vers la fin, voilà ce que Dieu dit. Après quoi, Dieu dit, voilà ce que Dieu dit à l'homme. Il dit, Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le de revenir pour toucher l'arbre de vie pour qu'il vive éternellement. Je pose la question à ceux qui disent que le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est l'adultère. Quand Dieu dit l'homme est devenu comme l'un de nous dans connaissance du bien et du mal, ça veut dire que quoi? Que Dieu a commis, l'homme a commis adultère. Quand même. Dieu dit que lui-même, la connaissance, le fruit là, c'est en lui. Le fruit peut être l'adultère. N'est-ce pas? Le fruit peut être l'adultère. Et on dit quand il est bien dit que Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Donc Caïn est le fils de Adam. Quand la Bible parle comme ça, ça veut dire que Caïn est le fils d'Adam. Il n'y a pas une autre interprétation. Voilà, les gens essaient de forcer pour créer des enseignements bizarroïdes. Amen. Donc laissez ça tomber. Si quelqu'un vous embrouille, venez me voir, on va vous expliquer. Mais vous voyez les frères, il y a une formation tous les dimanches matin. On explique ça là-bas. Gloire à Dieu. Alors donc, Adam mange le fruit. Ève, Adam, donc ils se découvrent qu'ils sont nus. En fait, c'est un passage qui est beaucoup plein de symboles, c'est vrai. Ils découvrent qu'ils sont nus. Dieu vient les voir le soir et ils disent, bon, nous sommes nus, nous ne pouvons pas sortir. Dieu dit, ah, vous avez mangé du fruit. Il dit à l'homme, tu as mangé le fruit. L'homme dit, non, c'est la femme. La femme dit, c'est le serpent. Et Dieu va commencer à donner des paroles qui expliquent toute la vie de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Toutes les paroles que Dieu va dire sont des prophéties. Sont des paroles qui nous expliquent ce que nous sommes en train de vivre. Premièrement, il dit, serpent, tu seras maudit entre tout le bétail. Tu vas ramper sur ton ventre. Tu vas ramper sur ton ventre. Bon, effectivement, les serpents d'aujourd'hui rampent sur le ventre. Il dit donc au serpent, voilà ce qui va t'arriver. Et tu seras maudit, donc tu vas ramper sur ton ventre. Et il va dire au serpent, serpent, tu vas manger de la poussière tous les jours de ta vie. Ça veut dire que Dieu va faire de la nourriture du serpent. Qu'est-ce qui devient la nourriture du serpent? C'est la poussière. Le serpent mange quoi? De la poussière. Dieu va continuer la malédiction. Il va donc arriver sur la femme. Femme, comme tu as écouté la voix du serpent, comme tu l'as écouté, je rendrai tes grossesses pénibles. Tes désirs seront portés vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Voilà. Ça, là, ça désonne nos sœurs. C'est pas grave. Sinon, avant, on était très, très, très égaux. Quand Dieu a créé l'homme, c'était vraiment l'égalité. Mais c'est après la chute, là, que quelque chose s'est passé. C'est pourquoi l'homme a trouvé l'autorité. Sinon, avant, il n'y a pas chef. En fait, les deux étaient tellement cohérents. On ne peut même pas parler de chef, parce qu'ils collaborent. Mais depuis la chute, là, c'est rentré dans les gènes, dans toutes les nationalités, dans tout le monde entier, que l'homme est toujours chef. Mais sinon, ce n'est pas le plan initial de Dieu. Amen. En tout cas, ouais, les hommes sont polygames, ils prennent les femmes, tout ça là. C'est parce que la femme a écouté le serpent. Si vous n'avez pas, si, c'est pas vous, hein, si Ève n'avait pas écouté le serpent, il y a longtemps, les choses comme ça, on n'allait pas avoir la situation là, qu'on vit aujourd'hui. Amen. Voilà, on n'allait pas parler d'émancipation, tout ça. Et donc, tes désirs vont se porter vers ton mari, il dominera sur toi. Et il va dire une parole qui est très 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 forte. Il dit, mes femmes, ta descendance écrasera la tête du serpent. Et la descendance du serpent va blesser le talon de la descendance de ta femme. De la descendance de la femme. Ça, c'est très, très, très fort. Il va donc continuer, donc, dans la parole, il va arriver sur l'homme. Voilà, tu vas travailler avec douleur, tu vas travailler avec souffrance, c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Parce que quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit, créons l'homme à notre image. L'homme est sorti de Dieu. Dieu a pris la poussière. Il en a fait un corps et il a soufflé et il a créé un être vivant. Donc l'homme, ça veut dire, et qu'est-ce qu'elle est la partie qui est poussière? C'est la chair. C'est la chair, là, la partie chair. La première partie de l'homme, en fait, qui est d'origine de la poussière. L'esprit est d'origine divine. C'est de Dieu que c'est venu. Voilà. C'est pourquoi il est raisonnable. Et la chair aime les choses de la terre. L'esprit recherche les choses d'en haut. Parce qu'il sort de Dieu. La chair, c'est les choses desquelles elle est sortie. C'est la première raison de l'attirance de la chair vers ce qui n'est pas bien. La seconde raison, c'est ce que Dieu va dire. Dieu dit au serpent, serpent, tu vas manger de la poussière tout le jour de ta vie, objectivement. Ou bien, réellement, nous savons tous que, si vous étudiez un peu les serpents, que les serpents ne mangent pas la poussière. Le serpent mange les rats, les margouillas, les choses comme ça.
Ceux qui fait un éleveur, qui est un éleveur du serpent ici? Mais pourquoi? On peut élever un serpent? C'est un animal. Ici là, c'est le diable. Laissez les pauvres serpents tranquilles. C'est le diable. C'est le diable. Moi, j'avais une soeur, ma fille brûlée à Yamsokoro. Hein? Walter, elle élevait les serpents. Donc, elle avait un python là. Tu dis, mais Walter, c'est qu'elle a fait des pitons dans l'école. Elle marche dans l'école. Le python sort de son sac. Elle met son cou. Elle est là. Donc, tous les frères disaient, mais ça, c'est le diable. Quand ils voyaient la soeur. Bon, effectivement, le serpent, il a une mauvaise réputation. C'est son nom qui est là, en tout cas. Même si c'est le diable, mais c'est son nom serpent qui est resté. Mais le serpent, c'est le diable. Et le serpent ne mange pas de la poussière, frère. Donc, en fait, c'est une image que Dieu est en train de donner. Alléluia. Et la Bible déclare que le diable, c'est le serpent ancien. Satan, c'est le serpent, c'est le diable. Soit c'est le diable qui a possédé l'animal, en tout cas, c'est le diable. Quand Dieu est en train de dire au serpent, serpent, tu vas manger de la poussière tous les jours de ta vie. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est pas compliqué à comprendre. C'est que plus bas, il a dit à l'homme, homme, tu es la poussière. Donc, Dieu était simplement en train de dire au serpent, qui est le diable, serpent, tu vas manger l'homme. Parce que physiquement, un serpent ne mange pas la poussière. Et plus bas, il dit donc, homme, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Serpent, tu vas manger la poussière. Ça veut dire quoi? Que le serpent a reçu le pouvoir de manger l'homme charnel. Ok? C'est pas compliqué à comprendre. Ça, au moins, Satan a compris ça. Il sait que lui, le diable, il a reçu le pouvoir de manger l'homme poussière. Ça veut dire l'homme charnel. Ça veut dire quoi? Que tant qu'un chrétien ou bien quelqu'un marchera selon les désirs de la chair, il devient la nourriture du diable. Ça veut dire Satan peut le manger, Satan peut lui faire du mal, il peut rentrer dans sa vie et puis sortir comme il veut. Ça là, c'est sa nourriture. Ce n'est pas qu'il est en train de voler. Là, il ne vole pas. On dit, voilà ta proie. Donc, quelqu'un qui vit dans l'impudicité, qui vit dans le mensonge, qui triche, qui vit dans les œufs de la chair, Satan peut le manger. Donc, quel est le but du diable lorsqu'il découvre quelqu'un qui est spirituel? Son but, c'est d'arriver à te rendre charnel. Dès que tu es charnel, tu rentres dans son domaine d'intervention de nourriture. Ça veut dire que tu deviens comestible. Ainsi, donc, si quelqu'un est très spirituel et qu'il a une vie de prière, Satan va faire tout pour envoyer quelqu'un pour te provoquer. Par exemple, pour que tu t'irrites. Quand tu rentres dans la colère, ça veut dire que tu réagis sur les yeux de la chair, il te mange. Ok? Bon, généralement, mais il a beaucoup de gens qui sont dans son poulailler. Son poulailler, ce sont les païens. Il n'a pas besoin d'aller les posséder. Ils lui appartiennent déjà. Ils sont dans le poulailler. Le jour où il a besoin d'eux, il les gorge et il les mange. Ça, c'est de la sorcellerie. Les sorciers. Voilà, c'est la sorcellerie. Le jour où ils ont besoin de quelqu'un, ils ont un grand stock de païens là. Quand il veut tuer, ça, on dit un sorcier a tué quelqu'un. Là, c'est. Mais c'est ceux qu'ils cherchent même, ce sont ceux qui ont eu la victoire sur la chair. Et quels sont les œufs de la chair? Nous les trouvons dans Galates chapitre 5, verset 17. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voici les œuvres de la chair. L'impudicité, c'est-à-dire les rapports sexuels en dehors du mariage. L'impudicité aussi, c'est le fait de se vêtir de façon indécente. L'impudicité, en fait, c'est ne pas manquer de pudeur, de ne pas avoir de la pudeur dans ce qu'on fait. L'impudicité, c'est sur les rapports en dehors du mariage. Ok? Donc ça, c'est une œuvre de la chair. L'impureté, c'est tout ce qui n'est pas pur. La dissolution, l'idolâtrie, aimer quelque chose plus que Dieu. La magie, tout ce qui est maraboutage, fétichisme, sorcellerie et autres. Les inimitiés, ça veut dire les palabres, les querelles, les jalousies, les animosités, ça veut dire la méchanceté, incompréhensible, même pas logique. Tu es méchant, tu vois la tête de quelqu'un, il t'énerve pour rien. Ça, c'est les animosités. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est en fait les choses semblables, ça veut dire, etc. Mais ici, il dit ensuite que les œuvres de la chair sont manifestes, ça veut dire on les connaît. Et nous connaissons les œuvres de la chair. Tant que vous commettrez des choses de ce genre, vous êtes une porte ouverte. Satan peut vous frapper. Si vous voyez qu'un sorcier est arrivé à manger un chrétien,
Parce que les sorciers, c'est le serpent. S'ils arrivent à manger un chrétien, ça veut dire qu'il est devenu Chanel. Sinon, un sorcier ne peut même pas te toucher. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi les chrétiens sont des gens qui sont à part? C'est qu'il est dit, quand Dieu continue la malédiction, qu'elle arrive à la femme, il dit à la femme, bon, c'est vrai, je rendais tes grossesses pénibles, mais il dit, ta descendance va écraser la tête du serpent. Alléluia. Voilà comment. Donc, en fait, il dit au diable, Satan, c'est vrai que tu as amené l'homme à pécher. Et tu as commencé par la femme. Mais celle dont tu t'es servi pour amener le péché dans l'humanité, c'est de cette même personne. Je me servirai pour te détruire, pour vaincre le diable. Dieu a décidé que la destruction de Satan ne vienne pas des anges, ni de Dieu lui-même directement, mais vienne des hommes. C'est nous qui devons combattre le diable. Et il dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Si vous étudiez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu veut parler de descendance, il ne parle généralement pas de la femme, il parle de l'homme. Il dit la descendance de l'homme. Et lorsqu'on cite les généalogies, on cite plutôt les hommes et non les femmes. Parce que la femme se marie avec son mari, elle porte le nom de son mari, et on cite donc le nom du chef de famille, c'est-à-dire l'homme, et on dit tel enfanté, tel enfanté, tel enfanté. On ne cite pas la femme. Mais ici donc, pourquoi Dieu ne va pas jusqu'à dire, il dit, homme, ta descendance va écraser la tête du serpent. Il dit, femme, ta descendance va écraser la tête du serpent. En fait, Dieu annonçait simplement que le diable allait être écrasé par un homme qui allait venir d'une femme sans un homme. C'est-à-dire sans être allé avec un homme. Donc, comme la femme là n'est pas partie avec un homme, on ne peut pas dire, l'homme, ta descendance. C'est pas une descendance, c'est une descendance directe d'une femme. Et c'est Jésus. Jésus est né d'une femme sans un homme. Alléluia. C'est pourquoi il dit, la descendance, il dit ta descendance va écraser la tête du serpent. Donc, il n'est pas question de toutes les descendances de l'humanité. Auquel cas, on aurait cité l'homme. Il est question d'une descendance particulière qui va venir d'une femme qui ne s'est pas mariée, qui n'est pas allée avec un homme. Raison pour laquelle il dit, cette femme sera sûrement la descendance. Et cette descendance-là va écraser la tête du serpent. Et qui est venu de la femme sans un homme? C'est Jésus. Et qui hérite de cette même promesse avec Jésus? C'est les chrétiens. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Jésus a dit, vous êtes co-héritiers avec moi. Jésus a dit que nous sommes ses frères. Donc tous les chrétiens reçoivent le pouvoir d'écraser la tête du serpent. C'est pourquoi en Luc chapitre 10, verset 19, c'est par contre on a terminé. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais à qui il dit ça? À ses disciples. Écraser la tête du serpent. Si Dieu nous le permet avec le temps, parce que je vois que le temps est court pour finir l'enseignement, ça dit même le dimanche prochain, normalement je dois compléter l'enseignement avec l'enseignement sur les pieds. Il y a un enseignement sur les pieds. On appelle ça laver les pieds. Hein, je dois terminer avec ça. Parce qu'on ne peut pas parler de la vie qui est victorieuse sans laver nos pieds. C'est pas que j'ai envoyé une casserole ici pour vous laver les pieds, les frères. Mais, en fait, je vais vous expliquer. En fait, ça veut dire quoi? Le serpent va blesser le talon. Et ça veut dire... Parce que la descendance, lui, écrase la tête. Ça veut dire, nous, les chrétiens, on peut tuer le diable. Mais lui, il peut blesser nos talons. C'est ce que le verset dit. Maintenant, comment on lave les pieds, là? Je vais vous expliquer. Vous vous rappelez que Jésus a lavé les pieds de ses disciples avant de partir? Je vais vous expliquer ça prochainement. Amen. Alléluia. Et il a dit à ses disciples en lavant leurs pieds, il a dit, si je ne vous lave les pieds, vous n'aurez pas de part avec moi. Lisez Jean 13. Si je ne vous lave pas les pieds, vous ne pourrez pas avoir de part avec moi. Il faut laver les pieds. Dis à ton voisin, laver les pieds. Donc, il ne faut pas naître seulement de nouveau pour écraser la tête du serpent. C'est parce que lui peut te blesser. Si tes pieds ne sont pas préparés, il va te faire du mal. Amen. Il ne peut pas te tuer, mais au moins il peut te blesser. Mais si tu as trop blessé, c'est pas bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, donc on n'a pas fini, vaincre la chair. On n'a pas fini. Oui, il reste quelques minutes. Non, on va attendre vers la fin. Il faut respecter le. Amen. Alléluia. Voilà, donc vous voyez ainsi manifester les yeux de la chair. Et je termine avec ça, c'est que, en fait, notre chair, non seulement du fait qu'elle soit née de la poussière, mais c'est cette partie-là qui a été donnée au diable. C'est pourquoi on ne doit pas suivre les yeux de la chair. C'est pourquoi la chair est foncièrement attachée au mal. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'esprit veut faire la volonté de Dieu, mais il découvre que la chair est attirée vers le diable. Parce qu'on se pose la question, mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé la chair? Pourquoi notre chair a toujours des désirs mauvais? Mais c'est tout simplement à cause de Jean chapitre 3, le passage que nous venons de lire. Amen. Retenez donc ceci. Le combat que vous avez mené avec le diable est celui-ci. Satan fera tout pour vous rendre charnel. Tant que vous êtes spirituel, Satan fera tout pour vous rendre charnel. Tant que vous êtes spirituel, il n'a pas accès à votre vie. Il n'a pas le droit de vous toucher. La seule chose qu'il peut faire, c'est de vous blesser le talon, mais pas vous tuer. Par contre, quand vous devenez charnel, quand vous commencez à vous disputer, alors pour vous disputer, qu'est-ce que le diable fait? Il prend quelqu'un qui lui possède déjà un gars charnel, il dit, va le provoquer. Le gars là, va le provoquer. Et puis le gars, il vient dans ton bureau, dans ton où tu travailles, et puis on te provoque. Un jour pour dire, trop c'est trop, tu crois que quoi pas là? Parce qu'on est chrétien ici. Mais alors, et voilà. Satan dit merci, c'est ce que je cherchais. Il salue son camarade, merci, tu m'as aidé. Comme toi, tu es devenu Chanel. Et puis il t'attaque. Dans la semaine, tu vas voir des choses qui vont t'arriver. Blocage de ceci, blocage de tes projets, blocage de ce que tu avais prévu faire, blocage de ceci. Il est rentré. Et il attaque tout ce que tu entreprends. C'est ça, manger la chair. C'est pourquoi il faut toujours se confesser, se répandir. Vous comprenez? Si tu as glissé en même temps, Seigneur, pardon, que ton sang me purifie. Parce que là, c'est la nourriture même qu'il a cherché. Et il va envoyer des gens pour te provoquer. Parce qu'il les possède déjà. Il va les déléguer contre toi. Pour t'amener à sortir hors de toi-même. Pour t'amener à faire des choses que Dieu n'aime pas. Et il sait que si tu as glissé dans la chair, lui, il peut t'attaquer. Et dès cet instant, il est capable de bloquer les prophéties que Dieu a dites pour toi.